Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal de Yvan Lutumba.
Une arme des soldats rwandais a été récupérée par les FARDC après l'incursion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais ce lundi matin. L'armée congolaise entend saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi sur cette occupation durant laquelle des pièces sont signalées. Voilà qui ouvre cette édition. La rentrée scolaire, nous en parlons dans ce journal avec cette colère des parents ce lundi 18 octobre ici à Kinshasa. Nombre des enfants des écoles Boboto et Sacré-Cœur ont manifesté devant le ministère de l'EPST protestant que les écoliers ne doivent plus entrer en classe pour ne rien y faire. Enfin, cette édition, nous revenons sur le point des éclairages qu'apporte le professeur André Mbata, président de la commission paritaire ayant examiné les PV des désignations des membres de la CENI. Il est notre invité pour ce journal. Fidèles auditeurs, merci de votre choix porté sur Radio Okapi pour vous informer. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Ce journal parle du Nord Kivu, le secteur opérationnel Sokola 2 confirme l'incursion des militaires rwandais sur le sol congolais ce lundi dans la matinée. C'est entre les villages Kitotoma et Kabuhanga, en groupement Buhumba, territoire de Nyiragongo. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole des opérations Sokola 2 indique que l'armée congolaise promet de saisir le mécanisme conjoint de vérification élargie pour élucider les mobiles de cette incursion. Le colonel Njike Kaiko Guillaume confirme également que les FARDC ont saisi une arme des militaires rwandais et enregistré des pillages perpétrés par ces derniers pendant leur retrait. Un extrait de sa déclaration choisi par Sifa Maguru.
Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments des RDF sur les sols congolais. Ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF.
Les autorités locales et la société civile affirment que le calme est rétabli et quelques familles commencent à regagner timidement leur village même sans être rassurées. Le trafic a également repris sur l'axe Goma-Rutshuru. La société civile confirme en outre le pillage du centre de santé de Buhumba où des kits de maternité ainsi que des biens des malades ont été emportés. Tout justement au sujet de cette incursion. Retour au calme dans la région de Buhumba après l'incursion des quelques heures ce lundi matin des militaires rwandais dans la zone frontalière avec la RDC. La société civile de Nyiragongo dénonce cette nouvelle incursion qui n'en est pas à ses premières tentatives selon elle. Cette structure citoyenne accuse aussi la porosité des frontières du côté congolais, ce qui favoriserait de tels incidents. Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, explique la situation dans ce témoignage.
La situation reste tendue dans le territoire de Nyiragongo suite à l'incursion de l'armée rwandaise, précisément à Kitotoma, où il y a eu un film des militaires rwandais qui a été observé par la population au niveau de Kasivi. Même chose au niveau de Kabuhanga, qui avait presque 4 lignes. Et ces militaires rwandais étaient armés. Ils ont entré à part des tirs en armes légères, mais aussi par des tirs en armes automatiques. Ce qui a conduit au déplacement rapide de la population. Et cette population a pris le chemin menant vers Rutshuru, d'autres ont pris à la direction de Goma. Ça fait plus de mois maintenant que la société civile est tentée de dénoncer presque la porosité de son cher au niveau de Kibumba, donc à partir de la borne de 10 jusqu'à la borne de 21. Vous pouvez observer vous-même à une distance de 7 km, vous allez trouver des militaires par des déchirements.
En plus bref, à Boutembo, 6 miliciens militaires FARDC ont péri dans une attaque contre une position de l'armée dans la nuit de dimanche à ce lundi à Kitakandi au quartier Kiabgala dans la commune Bulengera. Ce quartier est situé à la limite est de la ville avec la chefferie de Bachou, territoire de Beni. Le commandant FRDC dans la ville affirme que 3 Maïmaï blessés ont été capturés par l'armée. Nous poursuivons ce journal avec cette autre nouvelle en rapport avec la pacification de la partie est de la RDC. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Benjamin Alongaboni, lance un appel aux miliciens de la Codeco à déposer les armes pour contribuer au développement de la province. C'était au cours de sa visite d'inspection samedi dans le secteur de Walendupiti, en territoire de Djougou, considéré comme le fief de ce groupe armé. Selon le général Alongaboni, ces miliciens qui sont les fils du milieu doivent prendre conscience des conséquences de la guerre qui a longtemps duré. Il les a exhortés à ne pas se laisser manipuler pour détruire leur entité et l'avenir de leurs enfants. Général Benjamin Alongaboni est au micro d'Isaac Remoyope.
Nos frères qui ont pris les armes, revenez dans le bon sens. Instaurons la paix dans notre contrée. Les guerres, les tueries ne font pas développer un pays. C'est la paix qui développe un pays. Nous chantons toujours l'hymne national et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Et nous disons, nous léguons à notre postérité. C'est la paix et le développement de notre pays. Il est temps que nous pensions au développement des Kangouma. Nous allons partir. Qu'est-ce que nous allons laisser à ces petits-enfants assis devant nous? Préparons leur avenir en les envoyant aux écoles. Apprenons-leur le bon sens de la vie. Mes frères, mes oncles qui ont pris les armes, ceux qui vous trompent ne vont jamais vous donner le temps de vous développer. J'insiste sur la restauration de la paix. Acceptons-nous mutuellement avec nos défauts et qualités. La paix, ce n'est pas le gouverneur et le vice-gouverneur qui font la paix. C'est nous tous avec vous qui allons faire la paix.
Deuxième titre de ce journal, nous parlons de ce ras-le-bol des parents d'élèves à Kinshasa. Ils affirment être fatigués d'envoyer leurs enfants à l'école sans qu'ils n'étudient. Ils sont partis aujourd'hui exprimer leur colère et mécontentement devant le ministère de l'EPST dans la commune de Lagombe. Ils étaient accompagnés de quelques élèves, notamment du lycée Bosangani. Ces parents demandent au gouvernement de laisser prendre en charge les enseignants comme avant pour que leurs enfants étudient normalement. Célestine Massoudi a suivi cette marche pour nous, suivez son reportage.
Ils étaient nombreux devant le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, chantant et manifestant leur colère et mécontentement de voir leurs enfants partir en tourisme chaque matin. 3 semaines après la rentrée scolaire, aucun professeur ne veut entrer dans la salle de classe pour donner cours. Les parents trouvés sur place demandent que les autorités les laissent recommencer à payer le frais scolaire et permettre aux enfants de bien étudier car la gratuité ne réussit pas.
Nous déplorons puisqu'en fait, ça fait 2 semaines, on envoie les enfants à l'école, ils étudient pas, il n'y a rien du tout et ça fait pas bien. Ça veut dire que le gouvernement est irresponsable. Qu'on revienne à la case de départ, qu'on remette tout comme ça a été avant, que les parents continuent à cotiser et en même temps, l'État aussi trouve des mécanismes comment avoir les moyens effectivement pour résoudre ce petit problème dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans.
De leur côté, les élèves disent être fatigués de venir tous les jours à l'école sans étudier. Ils demandent aux autorités de l'EPST de répondre aux préoccupations des enseignants.
On se sent très mal, nous les élèves. On vient chaque jour, on ne fait rien, on perd notre temps, on est là, on n'étudie pas. Donc on se sent très mal. On demande aux autorités de faire quelque chose pour nous. Parce que là, vraiment, on n'en peut plus payer nos professeurs. Et aussi, ce sont des parents, ils ont des enfants, non? Nana Mar.
Ça m'énerve parce que c'est pas normal. C'est pas normal, il faut qu'on paye les enseignants.
À cet effet, le ministre Anthony Mouaba a initié rapidement une descente sur 6 écoles catholiques pour demander aux enseignants de reprendre la craie. Selon lui, le syndicat des enseignants des écoles catholiques lui a notifié une suspension des grèves, chose que les enseignants n'ont pas acceptée. Ces derniers réclament à présent la démission du ministre.
Pas de rentrée scolaire en vue pour les écoles publiques de la sous-division de l'EPST Beni. Hormis leurs revendications, les enseignants des écoles publiques de Beni commencent à récolter leurs signatures pour exiger la démission du ministre de l'EPST tout en durcissant leur grève déclenchée depuis le 4 octobre. C'était au cours d'une assemblée évaluative de la grève tenue ce dimanche. C'est comme l'explique ici Tembo Mouliouavio Pascal, secrétaire permanent de Sinecat Beni. Il est au micro de Guillaume Kassassia.
Il a été question d'évaluer la 2e semaine de notre mouvement de grève sèche afin de prendre position. Après cette évaluation avec les camarades, ayant trouvé que rien n'évolue de la part du gouvernement, ils décident de continuer dans la même position, de durcir la grève pour pousser le gouvernement à répondre à ces revendications telles que connues. Nous restons donc catégoriques dans notre position. Si ça va compter une année blanche pour le gouvernement, eh bien ce sera pour le gouvernement. gouvernement et non pour les enseignants. Au cours de notre séance, nous avons aussi examiné la question de la pétition initiée contre le ministre de l'EPST. Il a fallu depuis Goma que nous puissions exiger son départ par une pétition. Et les enseignants ont été unanimes. Maintenant ici, nous avons commencé la récolte des signatures afin d'appuyer cette démarche de nos camarades depuis Goma. Un message pour les enseignants, c'est de leur demander de ne pas se laisser intimider par qui que ce soit, d'accepter des sacrifices afin que demain soit meilleur.
19h10 à Bukavu, Sud Kivu, les acteurs de la société civile qui œuvrent pour la protection de l'environnement dénoncent la persistance des activités illégales au sein des aires protégées de la RDC. C'est principalement l'exploitation minière dans les parcs nationaux ainsi que l'érection de certaines centrales hydroélectriques au sein de ces patrimoines de l'UNESCO. Ces ONG s'adressent au chef de l'État pour lui faire part des défis pertinents liés à la conservation de la nature et à la protection des droits des communautés. Emmanuel Elamichou.
La note de plaidoyer est signée par près de 200 ONG congolaises soutenues par la société civile internationale. Tous disent être témoins de manière croissante des actions illégales visant à prélever des ressources naturelles au sein des aires protégées du pays. C'est notamment l'action de certaines sociétés minières, souvent étrangères, en connivence avec certains membres de l'administration congolaise. L'exploitation de l'or par des groupes armés avec la complicité des peuples autochtones au sein du parc national de Kahuzi Biega, site patrimoine mondial de l'UNESCO. L'exploitation minière illégale par les entreprises étrangères et nationales dans la réserve naturelle d'Itombwe en territoire de Mwenga. Aussi, la création controversée des blocs pétroliers au sein du parc national de Virunga. Ainsi, les signataires demandent-ils au gouvernement congolais d'agir concrètement pour renforcer la confiance dans l'État congolais et sa capacité à faire appliquer les dispositions légales pour sauver la biodiversité mondiale et lutter efficacement contre le changement climatique. Emmanuel Elamijwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Un mot sur le naufrage du 6 octobre dernier à Bumba dans la Mongala. Le gouvernement central a remis ce week-end une assistance financière évaluée à 500 000 francs congolais aux familles des victimes et à 250 000 francs congolais aux rescapés. L'embarcation des 9 pirogues qui a coulé sur le fleuve à 24 km en amont de Bumba transportait environ 300 passagers et des marchandises. La délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a également procédé à la remise des motos et moteurs hors-bord au service de l'État. Ce, avant de regagner Kinshasa hier dimanche. Le point avec Paul-Richard Malengela.
D'après nos sources, vendredi et samedi dernier, le vice-premier ministre à la fonction publique a remis respectivement 250 000 francs congolais à chacun des 70 rescapés officiellement recensés, puis la somme de 500 000 francs congolais à chaque famille des victimes estimées aussi à 70 morts. Jean-Pierre Liao et sa délégation ont également remis 8 motos, 4 grandes pirogues équipées de 4 moteurs hors bord et des gilets de sauvetage, notamment aux services étatiques liés à la navigation fluviale. Ces engins roulants, a-t-il expliqué, vont faciliter la mobilité qui faisait des en vue d'interdire la navigation nocturne des embarcations de fortune, laquelle pratique a plusieurs fois coûté la vie aux compatriotes sur le fleuve Congo, a-t-il dit. Certains bénéficiaires ont apprécié ce geste gouvernemental. Cependant, d'autres habitants ont souhaité une dotation en carburant à ces services de sécurité afin d'éviter des tracasseries sur les voyageurs. Et pour désengorger les convois motorisés, le président de la FEC Bumba, Omer Makongo, a plaidé pour la navigation des grandes unités flottantes ainsi que la réhabilitation des routes de dessertes agricoles et surtout de la route nationale numéro 6 afin de rendre fluide et moins dangereux le trafic des marchandises et des personnes à travers la province de la Mongala. Mbondaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan était long ce lundi à Luanda, reçu par son homologue angolais João Lourenço au palais présidentiel. L'objectif annoncé d'Ankara est de porter les échanges bilatéraux avec l'Angola de 176 millions à 500 millions de dollars annuels. Pour atteindre ces objectifs, la Turquie peut compter sur l'ouverture récente de la liaison Luanda-Istanbul par Turkish Airlines. Autre point discuté, la lutte contre le terrorisme. Le président Erdogan a réitéré le soutien d'Ankara à Luanda dans la lutte contre le terrorisme. Dans ce cadre, Erdogan a annoncé que le troisième forum d'affaires Turquie-Afrique sera organisé à Istanbul les 21 et 22 octobre et que le troisième sommet des partenariats Turquie-Afrique se tiendra à Istanbul les 17 et 18 décembre. Les forces armées éthiopiennes ont mené lundi des frappes aériennes sur Mekele, la capitale de la région du Tigré, marquant une nouvelle phase dans la guerre qui fait rage depuis près d'un an, ont indiqué à l'AFP des sources humanitaires et diplomatiques. Il s'agit des premières frappes aériennes connues sur Mekele depuis le début du conflit en novembre 2020. Mais des frappes ont depuis touché d'autres zones du Tigré, a déclaré via SMS à l'AFP un responsable humanitaire s'exprimant sous couvert d'anonymat.
L'invité.
L'enterrement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale s'est déroulé dans le strict respect de la Constitution, du règlement intérieur de la Chambre, mais aussi de la loi organique sur la CENI. C'est ce qu'a affirmé le président de la commission paritaire ayant examiné les PV de désignation transmis à l'Assemblée nationale par différentes composantes. Professeur André Mbata de l'UDPS est notre invité dans cette édition. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Professeur André Mbata, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Vous avez procédé à l'enterrement samedi des membres de la CENI, une procédure vivement protestée par notamment le FCC et même certains députés de Ensemble pour la République. Comment réagissez-vous aux différentes protestations, notamment celles faisant état d'une violation flagrante de l'article 53 du règlement intérieur de votre chambre?
Cher ami, je dois vous dire que le FCC n'a des leçons à donner à personne en matière d'organisation des élections libres et transparentes. Jamais ils n'ont aucune leçon à donner parce que même ce que vous venez de vivre à l'Assemblée nationale, l'enterrement par la plénière des membres de la CENI n'avait jamais eu lieu du temps du FCC. Tout se faisait presque à huis clos ou tout simplement de son bureau comme vous l'avez vu avec le cas de Ronsard Malonda. La procédure a été régulière en ce qui concerne Ensemble. Le député national Paul Mouindo, élu de Béni, représente Ensemble dans cette nouvelle équipe. Mais il n'y a aucune disposition qui prévoyait que les candidats membres de la CENI devaient être mandatés par leur groupe parlementaire. L'article 101 de la Constitution dispose que tout mandat impératif est nul. L'article 53 parle des commissions spéciales et temporaires. Tout à fait vrai. Mais la commission paritaire majorité-opposition, ce n'est pas une commission qui relève du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle relève avant tout de la loi organique sur la CENI qui l'a créée. Donc ce n'est pas une commission à confondre avec les commissions spéciales et temporaires dont il est question à l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Quelle crédibilité accordez-vous à une CENI vivement protestée par la classe politique, notamment l'opposition et même certains partis au sein de l'Union sacrée?
La démocratie, ce n'est pas la particratie, c'est-à-dire le gouvernement des partis politiques. Parce que ce qui est le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et nous devrons davantage, au lieu de me poser trop de questions sur la réaction des partis politiques, j'aurais souhaité que vous vous concentriez sur la réaction de notre peuple qui a reçu l'enterrement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale comme un soulagement parce que notre peuple veut aller aux élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel. Notre peuple ne veut pas du glissement auquel le FCC nous avait habitués. Non. Et notre peuple, cette CENI, est légitime, même s'il y a quelques critiques des membres de la classe politique.
Pourquoi avoir fait le forcing alors qu'il y avait possibilité de retourner sur la table des négociations afin d'élever un consensus avec toutes les parties prenantes à ce processus?
Vous dites que d'après vous, on ne fallait pas faire le forcing, il fallait rentrer à la table des négociations avec toutes les parties prenantes, mais cela n'est pas prévu par la loi. Nous sommes dans un état de droit. Cela n'est pas prévu. Après tout ce qui a été fait, tous les délais donnés, notamment aux confessions religieuses, sans qu'elles puissent s'entendre, l'Assemblée nationale devait s'assumer, et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'avait pas mandat d'aller commencer à confesser le chef des confessions religieuses. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. D'un côté, on veut l'organisation des élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel, et de l'autre, on s'oppose à la mise en place de l'institution qui doit organiser ces élections. C'est tout à fait bizarre. Il n'y a pas eu de forcing. L'Assemblée nationale a pour mission de voter les lois. Elle avait voté la nouvelle loi organique sur la CENI. Elle avait mission d'entériner l'équipe de la CENI. Elle l'a fait. Donc, l'Assemblée nationale s'est acquittée de sa mission confiée par la même nation.
Que répondez-vous au FCC qui vous accuse d'avoir mis en place une équipe de la CENI totalement à votre solde afin de planifier la fraude électorale?
Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas besoin d'une telle CENI. Nous n'avions pas besoin de mettre en place une équipe de la CENI acquise dans notre cause, parce que déjà, lorsque le FCC était au pouvoir, nous avons déjà gagné les élections. Et Félix Antoine Tshisekedi a été élu président quand le FCC était au pouvoir. Notre mot d'ordre reste de servir notre peuple. Nous nous y attelons et nous pensons qu'en 2023, Félix Antoine Tshisekedi sera réélu. Nous aurons une majorité suffisante pour gouverner ce pays et servir le peuple d'abord, contrairement au FCC qui ne faisait que servir les intérêts de ses membres et les intérêts de son autorité morale.
Professeur André Mbata, je vous remercie.
Et voilà qui met fin à cette édition de journal préparée par Élisée Chikota et l'ensemble de toute la rédaction.